4. Après ses examens médicaux, Madeleine avait trouvé refuge rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le confort rassurant de la Caravella, l'italien que lui avait fait connaître Bernard Bénédic. La prise de sang nécessitant d'être à jeun, elle n'avait rien avalé depuis la veille et la tête commençait à lui tourner. Elle commanda un café au lait et des biscottis et s'apprêtait à appeler la clinique de fertilité lorsqu'elle s'aperçut qu'elle avait oublié son téléphone rue du Cherche-Midi. «
Manquait plus que ça !»
se désola-t-elle en frappant la table avec la paume de sa main.
« Un souci ?»
demanda le serveur en lui apportant son petit déjeuner. Elle reconnut Grégory, le jeune patron que lui avait présenté la veille le galeriste.
« J'ai oublié mon portable et j'ai un appel important à passer.
« Je vous prête le mien !»
proposa-t-il en sortant de sa poche un étui aux couleurs du Milan AC.
« Merci, c'est très gentil. »
Elle appela Madrid et demanda à parler à Luisa. Au service de coordination de la clinique, elle avait sympathisé avec cette infirmière dont le frère était flic. Elle connaissait toujours ses horaires et, au besoin, l'appelait directement sur son portable pour éviter que la moitié de la Castille ne soit au courant de la taille de ses ovaires. Luisa nota les résultats qu'elle transmettrait à un médecin qui évaluerait la réponse ovarienne et, le cas échéant, modifierait la dose d'hormones à injecter. C'est sûr, on était loin du médecin de famille. On était dans une médecine 2.0, mondialisée, ubérisée, un peu low cost et un peu triste. Mais s'il fallait passer par là pour avoir un enfant, elle était prête. Madeleine profita du téléphone de Grégory pour appeler son propre numéro. Heureusement, Coutances lui répondit.
« Gaspard, où êtes-vous? Pouvez-vous me rapporter mon téléphone ?»
Le dramaturge marmonna des propos incompréhensibles, puis la communication se coupa. Comprenant qu'elle ne gagnerait rien à insister, Madeleine composa plutôt un SMS. « Pouvez-vous me rapporter mon téléphone? Si cela vous convient, rendez-vous à midi au restaurant Le Grand Café de la rue Delambre. Je vous remercie, Maddy. » Comme son café était froid, elle en commanda un autre qu'elle avala d'un trait. Elle avait très mal dormi. L'étoile ensorcelante de Lawrence avait peuplé son sommeil. Toute la nuit, elle avait voyagé en songe dans des horizons aux couleurs intenses, des forêts sensuelles aux lianes vivantes, des falaises qui donnaient le vertige, des villes balayées par un vent brûlant. Au réveil, elle aurait été incapable de dire si cette longue divagation tenait du rêve ou du cauchemar. Mais elle commençait à comprendre que c'était justement dans cette ambivalence que résidait la clé de l'œuvre de Sean Lawrence. Elle aperçut Bernard Bénédic qui, de l'autre côté du trottoir, remontait son rideau de fer. Elle toqua contre la vitre du café pour lui signaler sa présence et, comme elle l'espérait, le galeriste ne fut pas long à venir la rejoindre.
« J'étais certain de vous revoir », triompha-t-il en prenant place en face d'elle. « On ne résiste pas à la peinture de Sean Lawrence, n'est-ce pas ?»
Madeleine lui répondit par un reproche.
« Vous ne m'aviez pas dit que le fils de Lawrence avait été assassiné ?»«
C'est vrai », admit-il d'une voix blanche. « Mais c'est parce que je déteste en parler. Julian était mon filleul. Ce drame nous a tous dévastés. »«
Que s'est-il passé exactement ?»«
Tout a été écrit dans les journaux », souffla-t-il.
« Justement !» Ce qui est écrit dans les journaux est rarement la vérité.
Bénédic considéra l'argument d'un hochement de tête.
Pour bien comprendre les choses, soupira-t-il, il faut remonter longtemps en arrière. Très longtemps même.
Il leva le bras pour commander à son tour un café et se donner du courage.
Je vous l'ai déjà expliqué. Dès ma rencontre avec Sean, j'ai mobilisé tout mon réseau pour faire connaître son travail et le mettre en lumière. Sean était ambitieux et avide de rencontres. Je l'ai mis en contact avec des personnes très différentes, à Londres, Berlin, Hong Kong. Mais il y a un endroit dans lequel il ne voulait jamais mettre les pieds. New York.
Je ne comprends pas.
Chaque fois que je lui proposais de lui faire rencontrer des collectionneurs à Manhattan, il bottait en touche, expliqua Bénédic. Si incroyable que ça puisse paraître, de 1992 à cette funeste année 2014, Sean Lawrence n'est jamais retourné dans sa ville natale.
Il y avait encore de la famille?
Seulement sa mère. Mais il l'a fait venir à Paris dès la fin des années 1990. Elle était déjà très malade à l'époque, et elle est morte peu après.
Bénédicte trempa un crostini dans son café.
Au bout d'un moment, à force d'insister, Sean n'a pas pu faire autrement que de me lâcher quelques bribes de vérité.
Ça a remonté aux circonstances de son départ ? Demanda Madeleine.
Le galeriste approuva de la tête.
À l'automne 1992, après son été de l'amour avec Pénélope, Sean s'était retrouvé seul à New York. Il déprimait et n'avait d'autre objectif que de rejoindre la jeune femme à Paris. Le hic, c'est qu'il n'avait pas un sou en poche. Pour trouver de quoi s'acheter un billet d'avion, il s'est mis à commettre de petits larcins avec la complicité de Lady Bird.
L'élément féminin des artificiers, se souvint Madeleine.
De son vrai nom, Béatrice Munoz. C'était la fille d'immigrés chiliens qui trimait dans les usines du North Bronx. Une drôle de femme, renfermée, sauvage, presque autiste, emmurée dans un physique de catcheur. Il ne faisait aucun doute qu'elle était amoureuse de Sean et qu'elle se serait jetée par la fenêtre s'il le lui avait demandé.
Vous pensez qu'il en a abusé ?
Honnêtement, je ne sais pas trop. Sean était un génie, donc par définition un emmerdeur, un mec compliqué à vivre, mais en aucun cas un sale type. Il était impulsif, colérique, monomaniaque, mais je ne l'ai jamais vu méprisant envers les plus faibles. Je pense que pendant des années, pour ne pas lui faire de peine, Sean n'a pas rejeté Béatrice.
Mais Pénélope a tout bouleversé.
C'est certain. Munoz devait être désespérée lorsqu'elle a appris son projet de partir en France, mais elle l'a tout de même aidé à trouver de l'argent en braquant des épiceries.
Le flic en Madeleine reprit le dessus. C'est ce que vous appelez des petits larcins ? Pour moi, ce sont des vols à main armée.
Arrêtez. Leurs seules armes, c'était des pistolets à eau et des masques en caoutchouc de Mario et Luigi.
Madeleine n'en démordit pas. Arme factice ou pas, un braquage reste un braquage. Et d'expérience, je sais que ça se termine rarement bien.
Dire que ça ne s'est pas bien terminé est un euphémisme, admit Bénédicte. Un soir, à Chinatown, un épicier n'a pas voulu se laisser dépouiller. Il a sorti un flingue de derrière son comptoir et a ouvert le feu. Alors que Sean parvenait à s'enfuir avec l'argent, Béatrice s'est pris une balle dans le dos et s'est écroulée dans le magasin.
Madeleine se rencogna dans le fond de sa chaise. Bénédicte continua d'une voix résignée.
Lorsque les flics ont arrêté la chilienne, ils avaient un dossier épais comme mon bras à son encontre.
Les vidéos de surveillance des braquages précédents, devina l'ancienne enquêtrice.
Oui, c'était le quatrième magasin qu'ils dévalisaient dans le mois. Leur masque de plombier moustachu était reconnaissable sur toutes les bandes. C'est ce qui les a trahis au lieu de protéger leur identité. Malheureusement pour elle, Béatrice Munoz s'était déjà fait arrêter plusieurs fois à cause de ses tags. Elle avait un casier judiciaire fourni. Pour les flics et le procureur, c'était le jackpot, et ils s'en sont donnés à cœur joie. C'est le système judiciaire américain. Fort avec les faibles, faible avec les forts.
Elle n'a pas balancé Sean pendant les interrogatoires ?
Jamais. La malheureuse a écopé de 8 ans de prison et elle en a purgé 4 supplémentaires pour tentative d'évasion et violence répétée envers ses codétenus.
Sean ne s'est jamais dénoncé ?
Bénédicte eut un rire nerveux.
Le lendemain de l'arrestation de Béatrice, il était dans un avion pour rejoindre Pénélope à Paris. Le point de vue de Sean était simple, il ne se sentait pas redevable envers Béatrice, car il ne lui avait jamais rien demandé. Elle l'avait couvert, mais c'est un choix qu'elle avait fait elle-même.
Donc il a coupé les ponts avec ses amis d'enfance.
Complètement.
Et vous pensez que c'est pour cette raison qu'il n'a jamais voulu revenir à New York ?
Ça paraît évident, non ? Il sentait confusément que cette ville représentait un danger. Et il avait raison. Lorsqu'elle est sortie de tôle en 2004, Béatrice Munoz était un être brisé, physiquement et psychiquement. Elle a enchaîné des petits jobs à droite à gauche et a essayé de recommencer à peindre, mais elle n'avait pas de réseau, pas de galeriste, pas de cote. Pour tout vous dire, sans en parler à Sean, j'ai acheté certaines de ses toiles par l'intermédiaire d'un centre social de Harlem. Si vous voulez, je vous montrerai ses tableaux. Sa peinture post-incarcération était zombiesque, dévitalisée. Effrayante.
Elle savait ce qu'était devenu Sean ?
Bénédicte haussa les épaules.
Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Aujourd'hui, il suffit de taper un nom dans un moteur de recherche pour découvrir une bonne partie de sa vie. Béatrice connaissait la version papier glacé de Lorenz, le peintre à succès millionnaire, marié à une mannequin et père d'un adorable petit garçon. Et cette image l'a rendue folle.
Que s'est-il passé exactement?
En 2013, le MoMA a pris contact avec Sean. Il voulait organiser l'année suivante la première grande rétrospective américaine de sa carrière. Sean avait beau ne pas avoir envie de retourner à New York, le MoMA, ça ne se refuse pas. En décembre 2014, il s'est donc envolé vers New York avec sa femme et son fils pour inaugurer son exposition et donner quelques interviews. Il avait prévu de n'y rester qu'une semaine, mais c'est là que le drame s'est produit.
5. Pauline Delatour était un spectacle à elle toute seule, tant elle s'évertuait à mettre de la sensualité dans chacun de ses gestes. Une mèche de cheveux replacée derrière son oreille, un croisement de jambes, un bref mouvement de langue pour lécher une goutte de café à la commissure de ses lèvres. Mais rien en elle n'était franchement provocant ou aguicheur. Garde-frontière du bon goût, elle avait une façon joyeuse d'éveiller le désir qui tenait d'une sorte de célébration de la vie et de sa jeunesse triomphante. Gaspard n'avait pas eu à se forcer pour répondre à son badinage, mais, après deux tasses de café, il avait réorienté la conversation sur la seule chose qui l'intéressait vraiment, Sean Lorenz. Et il avait d'autant plus de mal à réfréner sa curiosité que Pauline venait de lui avouer qu'elle avait joué les babysitters pour le compte des Lorenz lors de leur séjour à New York pendant l'hiver 2014.
« J'ai vécu le drame de l'intérieur, et 2 ans après, j'en fais encore des cauchemars. » déclara-t-elle. À l'époque, je m'occupais de Julian presque toute la journée. Sean était pris du matin au soir par sa rétrospective au MoMA. Pénélope, elle, se la coulait douce. Shopping, manucure, sauna.
Où était-il descendu?
Dans une suite du Bridge Club, un hôtel chicose de Tribeca.
Pauline ouvrit la fenêtre de la cuisine et s'assit sur le rebord avant d'allumer une cigarette.
Le jour où tout ça est arrivé, Pénélope avait prévu d'aller faire des courses chez Dean et DeLuca, puis de déjeuner à l'ABC Kitchen, un restaurant près d'Union Square. Elle devait emmener son fils pour lui acheter des habits, mais au dernier moment, elle m'a demandé si je pouvais garder Julian.
Pauline tira une bouffée sur sa cigarette. En quelques secondes, sa joie de vivre avait laissé place à une nervosité qu'elle ne cherchait pas à dissimuler.
C'était ma journée de repos. Comme j'avais déjà des projets, j'ai décliné sa proposition. Elle m'a répondu que ce n'était pas grave et qu'elle sortirait avec Julian. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est jamais allée à Greenwich Village, ni à Union Square. Elle est allée rejoindre son amant à l'autre bout de la ville, au nord de l'Upper West Side, dans un hôtel d'Amsterdam Avenue.
Cet amant, c'était qui?
Philippe Carreia, un promoteur niçois qui faisait des affaires entre la Côte d'Azur et Miami. Un type un peu bourrin qui avait été le premier mec de Pénélope au lycée.
Qu'est-ce qu'il foutait à New York?
Pénélope l'avait convaincu de la suivre. À cette époque, elle se sentait délaissée par Sean.
Lorenz savait que sa femme le trompait?
Pauline soupira.
Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Leur couple, c'était un peu la chanson des vieux amants, vous voyez? Le genre de relation qui a besoin du conflit et de la brûlure pour s'épanouir. Je n'ai jamais vraiment compris la nature du lien qui les unissait. Qui portait la culotte? Qui dominait qui? Qui était prisonnier de qui?
Avoir un enfant ne les avait pas apaisés? Elle haussa les épaules.
Un enfant rabiboche rarement les couples.
Et Sean, il trompait sa femme?
Je ne sais pas.
Gaspard précisa sa question.
Sean trompait sa femme avec vous?
Pauline le renvoya dans les cordes.
Le type qui se tape la babysitter, c'est un scénario de mauvais porno, non?
Un silence. Puis, contre toute attente, Pauline joua la carte de la franchise.
Honnêtement, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais non.
Gaspard se leva et, avec la permission de son hôtesse, se resservit une tasse de café.
Donc, que s'est-il passé à New York ce fameux jour?
En début de soirée, voyant que Pénélope n'était pas rentrée et qu'elle ne donnait aucune nouvelle, Sean a commencé à s'inquiéter, mais il n'a pas prévenu la police tout de suite. Sa femme n'était pas joignable pour la bonne raison qu'elle avait oublié son portable à l'hôtel. Les heures ont passé et l'angoisse est montée d'un cran. À 11h du soir, Sean s'est décidé à contacter le service de sécurité de l'hôtel qui a appelé directement le NYPD. Ils ont tout de suite pris l'affaire au sérieux à cause de la disparition de l'enfant et de la notoriété de Sean. Toute la nuit, ils ont lancé des signalements aux différentes patrouilles et ont commencé à visionner les enregistrements des caméras de surveillance aux abords des endroits où Penelope était censée être allée. Bien entendu, ils n'ont rien trouvé. Pauline écrasa sa cigarette dans la soucoupe de sa tasse à café. Son visage était livide. À 7h du matin, un coursier a livré à l'hôtel une boîte en carton dans laquelle il y avait un petit doigt d'enfant accompagné d'une demande de rançon tachée de sang. C'était monstrueux. Là, le FBI est entré dans la danse. Ils ont élargi le périmètre des recherches, lancé l'alerte enlèvement, mis en branle tout le bazar de la police scientifique. Finalement, une caméra de surveillance d'Amsterdam Avenue avait bien filmé l'enlèvement de Pénélope et de son fils. Pauline se frotta les yeux en soupirant. À l'époque, j'ai pu apercevoir les images. Cette fois, on n'était plus dans un porno, plutôt dans un film d'horreur. On y voyait une espèce de monstre à la force de taureau en train de précipiter Pénélope et Julian à l'arrière d'un van déglingué. Comment ça, une espèce de monstre? Une apache, bossue, aux épaules larges et aux bras puissants. Gaspard eut une moue dubitative. Pauline poursuivit. Les empreintes relevées sur la boîte étaient fichées. Elles appartenaient à Béatrice Munoz, une ancienne délinquante, aussi connue sous le nom de Lady Bird, qui avait fréquenté Sean dans sa jeunesse. À l'évocation du nom de la femme oiseau, Gaspard se rappela les photos qu'il avait vues la veille dans la monographie du peintre. Celles des jeunes artificiers en train de taguer les wagons du métro au début des années 1990. Sean et son blouson trop grand, Night Shift, le latino arrogant aux oreilles décollées, et Lady Bird, l'indienne si peu aérienne malgré son surnom, dont les cheveux d'ébène étaient ceinturés d'un bandeau à la Geronimo. Dès que le FBI s'est saisi de l'affaire, les choses se sont accélérées. Avant midi, ils avaient localisé le squat dans lequel Béatrice Munoz avait conduit ses victimes, un hangar d'un ancien site industriel du Queens. Mais lorsqu'ils ont donné l'assaut, il était trop tard. Julian était déjà mort. 6. Cette rançon, ça signifiait quoi? Demanda Madeleine. Bernard Bénédicte plissa les yeux.
Vous voulez dire son montant? 4 290 000 $.
Oui.
C'est le prix de la souffrance. Le nombre de jours que Béatrice Munoz avait passé en prison multiplié par 1000. 11 ans et 9 mois d'enfer. 4 290 jours. Présenté comme ça, la somme en paraîtrait presque dérisoire.
Lorenz a essayé de réunir l'argent, j'imagine.
Bien sûr. Mais Munoz n'a jamais voulu d'argent.
Qu'est-ce qu'elle voulait alors? La vengeance?
Ouais, cette justice sauvage dont parle Francis Bacon. Elle voulait briser la vie de Sean, lui infliger la même souffrance atroce que celle qu'elle avait elle-même ressentie.
Elle a pourtant épargné la vie de la femme de Lorenz.
Il s'en est fallu de très peu. Le FBI a retrouvé Pénélope ligotée à une chaise avec du fil de fer barbelé. Elle en porte encore les cicatrices aujourd'hui. Mais le plus horrible, c'est que Béatrice avait poignardé Julian sous les yeux de sa mère.
Le sang de Madeleine se glaça. Elle repensa à l'expression de son ami Danny. Le chemin des ténèbres, de la souffrance et de la mort. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, toutes les routes la ramenaient toujours à ce carrefour et à son cortège de cadavres. Béatrice Munoz est en prison aujourd'hui?
Non. Elle était parvenue à quitter sa planque avant l'assaut. Elle est allée se jeter sous un train à Harlem, 125th Street, une gare dans laquelle elle et Sean avaient l'habitude de taguer des wagons.
Fataliste, Bénédicte laissa échapper un soupir de désolation. Madeleine chercha dans la poche de son blouson un médicament contre les brûlures d'estomac. « Il y a une question que je me pose depuis hier, » reprit-elle après avoir avalé son comprimé.
Sean Lawrence était à New York au moment de sa mort, il y a un an, n'est-ce pas ?
C'est exact. Il est mort d'une crise cardiaque en pleine rue.
Qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas ? Pourquoi être retourné dans cette ville chargée de tant de souvenirs funestes ?
Il avait rendez-vous avec un cardiologue, justement. C'est ce qu'il m'a expliqué, au téléphone en tout cas. Et j'ai de bonnes raisons de penser que c'était la vérité.
Lesquelles ?
Bénédicte ouvrit la mallette en cuir Venezia qu'il avait posée sur la chaise à côté de lui.
« Comme je savais que vous reviendriez me voir, j'ai apporté ceci avec moi »,
affirma-t-il en sortant un carnet brun clair qu'il tendit à Madeleine. Elle l'examina avec attention. Il s'agissait en fait d'un petit agenda de la marque Smithson en cuir imprimé.
« J'étais à Paris lorsque j'ai appris la mort de Sean. J'ai sauté dans un avion pour New York pour m'occuper du rapatriement de son corps. À son hôtel, c'est moi qui ai récupéré ses affaires. Il n'y avait qu'une petite valise qui contenait quelques vêtements et cet agenda. »
Madeleine le feuilleta. Une chose était certaine, l'emploi du temps de Sean Lawrence dans l'année qui avait précédé sa disparition se résumait à des rendez-vous médicaux. À la date de sa mort, le 23 décembre 2015, il avait écrit « Rendez-vous, docteur Stockhausen, 10h ».
De quoi souffrait-il exactement ?
D'infarctus à répétition. La dernière année de sa vie, Sean a enchaîné les angioplasties et les pontages aorto-coronariens. Vous vous souvenez de la chanson de Ferré ? Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin.
Je peux garder cet agenda ?
Bénédicte hésita, mais donna son accord d'un mouvement de tête.
Ces trois dernières toiles, vous pensez vraiment qu'elles existent ?
J'en suis certain, répondit le galeriste en la fixant intensément. Tout comme je suis certain que vous allez les retrouver.
Madeleine joua la prudence.
Pour ça, j'ai besoin que vous me disiez où gratter. Quelles sont les personnes que je pourrais aller voir ?
Bénédicte prit le temps de la réflexion.
Allez faire un saut chez Diane Raphaël. C'est une psychiatre compétente et très sympathique, l'une des rares personnes pour qui Sean avait du respect. Elle l'a rencontré quelques mois après son arrivée en France, à l'époque de l'hôpital éphémère. En ce temps-là, Diane dirigeait une petite structure itinérante d'aide aux toxicomanes. Elle s'intéressait aux nouvelles formes d'art et a été l'une des premières à acheter deux de ses toiles. Sean la considérait un peu comme son ange gardien.
Madeleine enregistra mentalement ces informations en se rappelant que Gaspard avait déjà évoqué ce nom devant elle la veille au soir.
Qui d'autre ?
Peut-être Jean-Michel Fayol, un marchand de couleurs. Il a une petite boutique qui donne sur les quais. Sean le consultait souvent lorsqu'il peignait.
Pénélope Lawrence habite toujours à Paris ?
Bénédicte hocha la tête sans répondre franchement.
Vous pouvez me donner son adresse ?
Le galeriste sortit un stylo de sa poche et déchira une page de l'agenda.
Je vais vous noter ses coordonnées, mais vous n'en tirerez rien. Rencontrer Pénélope a été à la fois la grande chance et le plus grand malheur de Sean. L'étincelle qui a révélé son génie pour mieux allumer quelque temps plus tard l'incendie qui a ravagé sa vie.
Il tendit le papier plié à Madeleine, puis les yeux dans le vague, se demanda tout haut
« Qu'y a-t-il au fond de plus triste que de voir son âme sœur devenir son âme damnée ?»